Merci à Isabelle, à Pierre de cette invitation. Je pense qu'il y a plusieurs invitations. Cette invitation à parler encore. Alors, plus fort. Jean Allouche voulait-il mettre un thermomètre ? Alors je vais reprendre évidemment quelques termes qui ont déjà été égrenés. Je vais reprendre le premier terme que Simone a mis en perspective, puis en bas, sur la brouillardise, brouillard. Donc il s'agit ici de débrouillardise. Débrouillez-vous, débrouillardez-vous. En somme, bricoler un peu avec ce qui se dit ou ce qui se lit ici. Alors, ce que je vous propose, ça a été dit, redit, je vais le redire autrement, puisque là, sur page 73, où Jean Allouche parle du fait qu'il est en boule, l'élève, puisqu'il a été cité la phrase « on est dans la famille », etc., je voudrais juste un petit peu remonter au début de cette phrase pour donner un petit peu le contexte. Donc il est écrit « Ainsi me suis-je activement prêté à être enveloppé et mis dans sa poche. Je n'étais pas le premier et il n'était pas le premier, ce qui m'a facilité de n'être pas un lacanien au sens où on l'entend habituellement. On est un lacanien, et là il y a des guillemets, si l'on ne dispose d'aucun pertinent point d'extériorité pour le lire. » Ça a été dit. Hein, mais juste avant, ça m'a facilité de n'être pas un lacanien. Je pense que c'est aussi important de le redire ainsi. Donc, en écho à cette phrase, je prends la dernière phrase du terme, ignorance, ce dernier mot ici, du terme du livre, ignorance, ce dernier mot ici convient. Alors, comment faire avec des points d'extériorité? Ce que je vous propose, enfin en tout cas ce que je me suis proposé moi-même de faire, et ce que je vous propose là, c'est non pas quelques trafics textuels, je disais tout à l'heure, mais quelques montages textuels dans une perspective de filiation, c'est-à-dire de filia, c'est-à-dire avec quelques amis qui sont ici présents dans le texte de Jean Allouche, soit par irrigation, soit de façon explicite. Donc quelques propositions. Je vais essayer d'articuler l'ironie avec quelques animaux et l'acte de mourir comme liberté. Et quelques textes. J'essaierai d'être rapide. David Alperine, Lacan lisant Platon, Paul Audy et Anonyme. Je reviendrai sur Anonyme. Comme l'écrit David Alperine dans son ouvrage « Amour et ironie, six remarques sur l'éros platonicien » traduit par Isabelle Châtelet, paru au cahier de l'Une Bellevue en 2005, je vous cite, « Ce n'est pas un hasard si Platon, le premier dans l'histoire occidentale, a élaboré une théorie du désir érotique, soit aussi à l'origine de notre concept d'ironie. L'ironie platonicienne, sur son versant le mieux connu, a trait au savoir, non à l'érotique. C'est l'ironie socratique. » L'attitude d'ignorance adoptée par Socrate, qui paradoxalement lui permet de contester les prétentions de quiconque au savoir. Ironie, poursuit David Alperine, est un mot grec, et dans l'Athènes de Platon, poursuit David Alperine, traduit par Isabelle Châtelet, ironie est donc un mot grec, et dans l'Athènes de Platon, il signifiait moquerie, en un sens qu'il a encore aujourd'hui en français. En prétendant que la seule chose qu'il sache, c'est de ne rien savoir, le Socrate de Platon affirme et nie à la fois qu'il possède le savoir. Et cette attitude ironique lui permet de montrer une authentique admiration pour les compétences des autres, même lorsqu'il entreprend de les démolir. En laissant entendre autre chose que ce qu'il dit, en refusant de succomber au scepticisme ou à la crédulité, le Socrate de Platon est un ironiste au sens moderne. Je vais revenir sur ce terme. D'ironiste. Perrine poursuit, peut-être que l'ironie de l'éros platonicien est moins démonstrative que l'ignorance socratique. il n'en est pas moins paradoxal. Le désir sexuel en jeu ne trouve pas la satisfaction sexuelle. L'éros platonicien donne lieu à des histoires d'amour ardentes où il ne s'agit pas d'aimer la personne. L'attirance érotique n'est pas physique, elle est métaphysique. Lacan, lisant Platon dans le transfert, met en travail la figure de Socrate dont il fait l'antécédent de la psychanalyse. Il est aussi question, dans ce séminaire, je ne vais pas vous rappeler évidemment, voilà, d'ignorance et de rire dans l'amour. En d'autres termes, d'un certain rapport au savoir et d'un certain style drôlatique. Ce qui m'a intéressé en lisant le transfert, c'est le rire de Socrate et c'est bien sûr le hoquet d'Aristophane. Peut-être même que pour Lacan, le personnage le plus important du banquet, c'est peut-être Aristophane. Qui se marre. Pour Lacan, le Socrate de Platon est une sorte de Sade en plus drôle. C'est le terme de Lacan. Socrate est plus drôle en un sens précis. Il est érotique là où un Sade se noie dans la monotonie répétitive de son fantasme sadien. Il est érotique surtout parce qu'il se situe plus du côté du comique que du tragique. Alors, après le poisson torpille, Socrate, avant d'évoquer le hérisson, donc ça c'est quelques animaux, le poisson torpille c'est proche de la raie, c'est-à-dire que ça produit des décharges électriques. Un petit détour vers ce que Lacan propose pour lâcher quelques grands mythes de la psychanalyse, pour le dire comme ça. Parce que vous savez, vous vous souvenez, Aristophane, enfin, Freud reprend le mythe d'Aristophane, de la bisexualité, etc. Donc tout ça est moqué par Aristophane. Et Lacan se pose la question suivante. Pourquoi Freud a-t-il choisi le mythe d'Œdipe ? C'est vrai que c'est une question. Lacan dit ceci. Il reconnaît sa découverte et son domaine dans la tragédie d'Œdipe, non pas parce que Œdipe a tué son père, pas plus qu'il n'a envie de coucher avec sa mère. Un mythologue très amusant croit pouvoir faire le malin, c'est Lacan qui parle, hein, croit pouvoir faire le malin en ce qui concerne le mythe d'Œdipe dans Freud. Il dit, pourquoi Freud ne va-t-il pas chercher son mythe dans la mythologie égyptienne où l'hippopotame est réputé pour coucher avec sa mère et écraser son père? Et Lacan poursuit, pourquoi ne l'a-t-il pas appelé le complexe de l'hippopotame? Et là, poursuit Lacan, il croit avoir porté une bonne botte dans la bedouille de la mythologie freudienne, mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a choisi. Il y a bien d'autres héros d'Œdipe qui sont le lieu de cette conjonction fondamentale. L'important, et ce pourquoi Freud retrouve sa figure fondamentale dans la tragédie d'Œdipe, c'est le « il ne le savait pas », qu'il avait tué son père et qu'il couchait avec sa mère. Pas le savoir et l'ignorance. Entre parenthèses, et entre nous, imaginez simplement le destin de la psychanalyse s'il s'agissait du complexe d'hippopotame plutôt que du complexe d'Œdipe. Et puis, il y a l'ornithorynque. Alors, l'ornithorynque, c'est l'anonyme, c'est la lettre de Anonyme dans Lettre à Lacan. Anonyme a envoyé cette lettre à Lacan. Cher monsieur, vous ne sauriez m'avoir aperçu dans le public de votre séminaire que l'on me dit avoir été fort nombreux. À vrai dire, dans les années 80, je ne songeais même pas à naître. Par après, je fus trop bien dans ma peau pour devoir m'intéresser à la psychanalyse, la vôtre ou celle de tout autre. Et voici que l'on me sollicite à vous écrire au seul motif qu'étant en train de terminer ma thèse doctorale sur l'ornithorynque, je me suis intéressée à ce que vous pouviez en avoir dit. Ainsi ai-je pris contact avec votre œuvre. Donc, anonyme, écrit à Lacan. Hein. Ainsi ai-je pris contact avec votre œuvre, dont l'importance m'est apparue tout aussi cruciale pour les ornithorynques que pour les humains. Ce trait me paraît avoir échappé à vos disciples. ce qui ne me surprend guère. Car n'y ont accès que les rares personnes qui, comme moi, voient un ornithorynque dans l'image d'eux-mêmes, que leur renvoie leur miroir. Sans doute n'avez-vous pas oublié qu'il s'agit là d'un des rares mammifères venimeux, susceptibles de paralyser une jambe humaine et même de tuer un chien. Je passe un peu. Vous n'étiez plus là, il ne restait que vos travaux, ils m'ont offert d'y voir plus clair et presque de résoudre ma difficulté. Grâce à vous, j'appelle désormais acte le geste de l'ornithorynque tuant un chien ou tout autre animal de ce calibre. Je vais revenir sur cette notion d'acte. Anonyme, termine sa lettre. Quoi qu'il en soit, je vous prie d'accepter, cher maître, l'expression d'une considération que je n'accorde qu'à fort peu de gens. Anonyme, Université Paris 25, département de paléobiologie. Alors, poisson torpille, hippopotame, ornithorynque. Très intéressant l'ornithorynque. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, comment c'est un ornithorynque. Ça fait partie des animaux les plus étranges d'Australie. J'ai vu ça sur Wikipédia, parce qu'il fallait que je m'en renseigne. C'est une petite créature au bec de canard et à la queue de castor. Et alors l'ornithorynque est un animal monotrème, à la fois ovipare et mammifère. C'est-à-dire que le monotrème pond, mais allaite ensuite ses petits. Le monotrème pond, mais allaite ensuite ses petits. C'est pas si... Je vais faire une métaphore du maître, mais en tout cas, peu importe. Alors, chéri le hérisson, chérisson, est-ce que vous savez comment s'appelle le petit du hérisson? Est-ce que vous savez comment s'appelle le petit du hérisson? Eh bien, il y a un mot, figurez-vous, qui fait usage, c'est le choupisson. Le choupisson. Le choupisson. Le choupisson. De, je ne sais pas si c'est de pisson ou de chou, mais c'est en tout cas, puisqu'il s'agit de pisser aussi. Mais c'est le choupisson. Alors, attention, le choupisson, c'est le terme d'usage qui n'est pas reconnu par l'Académie française. Il n'est reconnu par l'Académie française que le hérissonneau. Mais l'usage est le choupisson. Voilà, donc ça, c'est le choupisson. C'est le petit du hérisson. Si Lacan s'est donc. À partir de la page 52 du livre, Alouche lit Paul Audy, Lacan ironiste. Il est écrit dans ce livre: si Lacan s'est fait ironiste, c'était essentiellement dans le but d'échapper au mieux à toute positivité de sens. Donc de se dérober au semblant de son intelligibilité et d'éviter ainsi de se laisser duper par l'effet de vérité d'un discours où le savoir qui se veut chaque fois déterminant prétend sur le modèle fallacieux de la philosophie offrir une théorie probante du réel. Et je termine dans ce montage de texte par la fin de la lettre de Anonyme. La fin de la lettre de Anonyme. S'intitule « Faire du mourir un acte ». Un acte qui ne pourrait être que celui de ma, parenthèse, ce ma est aussi générique, un acte qui ne pourrait être que celui de ma liberté. Cette liberté mise en œuvre en tant qu'elle s'adresse à celle d'autrui. Que serait mourir de façon à laisser être autrui libre de ma mort ? Laisser, non pas permettre. Permettre, P-E-R-M-E-D-T-R-E, pas prolonger, permettre, P-E-R-M-A-I-T-R-E. Donc laisser, non pas permettre, cette mort ne l'endeuillerait pas, ne l'encombrerait pas, ne la parasiterait pas. Inenvisageable, impossible. Des morts aliénantes, cela court les rues. stagnent dans les cimetières. On les fleurit, les rendant ainsi florissantes. Une des plus remarquables, celle du Christ. Sa crucifixion a aliéné au Fils de Dieu des millions de gens durant 2 millénaires. Pour les siècles des siècles, dit la rumeur. Christ exemplaire du « mort pour être aimé » de Paul Éluard. Peut-on davantage dévoyer l'amour? Bien des passages à l'acte suicidaire mettent en place d'autres modalités d'aliénation des survivants. Déjà ce mot. On entend qu'un beau jour, elle soit répertoriée. La vision banale d'une mort après une vie sinon accomplie, tout au moins bien remplie, guillemets, ne rejoint pas ce que serait l'acte du mourir, le mourir comme acte. S'en rapprocherait-elle de plus près cette mort hindouiste où l'être défunt se coule dans le Dieu univers y trouvant son lieu? Son lieu. Et simplement la mort stoïcienne. Je coupe un peu, je vous renvoie au texte. Je coupe un petit peu. Dommage. Pour autant, ces massives vérités ne sont pas celles qu'elles réduisent à néant, en perspective d'un mourir qui vaudrait acte. Elles négligent qu'il y a mourir et mourir. Certaines morts pèsent plus que d'autres. Plus que d'autres, elles hypothèquent l'avenir, qu'il ignore. C'est aussi la mort créatrice qui méconnaît cette triste sagesse. Cependant, qu'elle produise l'œuvre fait fond sur l'imagination d'une éternité. Une telle survie ne rejoint pas non plus l'acte du mourir. Faire du mourir un acte rendrait la mort légère, légère, légère. Est-ce à dire sans trace aucune ? De même que le rapport sexuel, une mort sexuée en somme, telle serait la mort au temps du non-rapport sexuel. Je présume que Anonyme a peut-être soufflé à Jean Alouche les deux analytiques et le livre.
D'accord, merci. On arrive à la fin. Courage. Voilà, donc j'ai pris transmettre comme l'élément d'un bouquet, d'une trilogie. Constitué également du livre déjà cité par Annick Kapp, Le sexe du maître, paru en 2001, Le sexe du maître, l'érotisme d'après Lacan, et La psychanalyse est-elle un exercice spirituel, réponse à Michel Foucault, 2007. Les questions traitées dans ces ouvrages me semblent nouées, et je ne développerai bien sûr que quelques points qui m'ont saisi à la lecture. Donc, à partir du livre de 2007, l'analyste, un maître spirituel, point d'interrogation. En 2007, donc Jean Alouche répond à Foucault, qui, dans l'herméneutique du sujet, affirme que la psychanalyse n'a pas su se penser dans le tranchant historique de l'existence de la spiritualité. Lacan aurait évité cet écueil, selon Foucault. La psychanalyse serait une expérience spirituelle par laquelle, via un autre, le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour accéder à sa vérité. Or, la transformation opérée dans le sujet par son accès à la vérité est une question caractéristique de la spiritualité, selon Foucault. On retrouve dans la psychanalyse comme forme de savoir, je cite, « les questions, interrogations, les exigences, qui sont les très vieilles, les très fondamentales questions de l'épiméléia et au tout, le souci de soi, et donc de la spiritualité comme condition d'accès à la vérité. Ces conditions de spiritualité ont été masquées à l'intérieur d'un certain nombre de formes sociales, la médecine, la science, la psychothérapie. Alors, l'analyste est-il un maître spirituel? Je veux dire qu'à l'époque, je n'avais pas bien reçu le livre en 2007, et je trouve que, alors pour des raisons à la fois transférentielles, de préjugés, et peut-être aussi, je trouve que transmettre clarifie les choses par rapport au livre de 2007. Selon Lacan, en 53, l'analyste est un maître de vérité. Et la vérité est alors entendue comme dévoilement, désoubli. Pourrait-on également le qualifier, l'analyste, de maître sur la voie de la subjectivation? Ce concept essentiel chez Lacan, le rappelle Jean Alouche, écarte la psychanalyse de la science pour laquelle elle ne peut jouer aucun rôle. La généalogie de la psychanalyse que fait Foucault la rapproche donc de la spiritualité, pas science, pas religion, mais spiritualité au sens des écoles philosophiques antiques, comme le rappelait Simone ce matin. Encore faut-il pointer au moins deux paradoxes. Il s'agirait d'un maître, donc spirituel, qui n'émargerait pas au discours du maître, et d'un maître qui reçoit son message de l'autre, et lui renvoie plutôt qu'il ne le produit. Dans l'expérience de transformation qu'offre la psychanalyse, le sujet opère via un autre, car, de structure, il reçoit son message de l'autre. Nicolas Dicèze rappelait à la dernière soirée librairie, ce que je ne savais pas, que c'est justement d'un autre, Lévi-Strauss, que Lacan a reçu la formule « le sujet reçoit son message de l'autre ». C'est amusant que cette formule-là lui vienne d'un autre. Donc c'est Lévi-Strauss. C'est aussi de Foucault qu'il a reçu l'idée en 69 que la psychanalyse était un discours. Et c'est par ailleurs, c'est pas de la commission turquée, donc qui visait à l'exclure, qu'il reçut le message qu'il manquait en France un enseignement sur les fondements de la psychanalyse, ce qu'il corrigea l'année suivante, les travaux de la commission, avec son séminaire sur ce thème, devenu les quatre concepts fondamentaux. Donc c'est la commission qui voulait l'éliminer, qui avait dit ça, et Lacan a repris ça. Donc Lacan, quand même un drôle de maître, qui reçoit son message de l'autre. Vous ne parlez pas beaucoup, me dit un analysant sur le ton du reproche. Si la rareté de la parole est un moyen que celle-ci garde son tranchant, ou ses enchantements, selon le mot de Shakespeare cité par Alouche, elle vise aussi à rester au service du message du sujet, à ce qu'il lui revienne. Trop bavard, l'analyste se risque à produire le message au lieu de le renvoyer. Un point m'a particulièrement intéressé dans le livre « Transmettre », c'est donc la question de être lacanien. Question problématique, me semble-t-il. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Alors, on est lacanien, pardon pour les redites encore une fois, entre guillemets, Alouche utilise ici des guillemets de réprobation, je dirais, comme vous l'avez souligné, au sens où on l'entend habituellement, ce dans quoi l'auteur ne se reconnaît pas, si on ne dispose d'aucun point d'extériorité pertinent, effectivement, j'avais pas. Si on ne dispose d'aucun point d'extériorité pertinent pour lire Lacan. Quel était celui de Jean Alouche? Moi, je n'ai pas trouvé qu'il le disait explicitement, mais il affirme qu'il en avait un. Il indique que Lacan lui-même a lu Freud à partir d'un point d'extériorité, son paradigme RSI. Il fait une liste translittération, c'est dans la liste des points où il se démarque. Mais je ne pense pas que ce soit son point d'extériorité. Enfin, ça se dit.
Si.
Bon, d'accord. C'est pas ma lecture. D'accord, donc c'est ça.
Les deux analyses.
Donc c'est à partir de là.
Mais aussi dans la neutralité.
Que c'est son point d'extériorité, c'est
la translittération. Première exposé en 1969, à l'école freudienne.
Oui, c'est ça, parce que là.
Moi, je ne l'ai pas entendu du tout. Parce que j'ai entendu comme quoi il y aurait eu un autre analyste avant. Et ça l'aurait. Voilà.
Bon, il y a plusieurs manières. Alors. Il indique que Lacan lui-même a lu Freud à partir d'un point d'extériorité, son paradigme RSI, justement. Il était ainsi freudien à partir d'un point d'extériorité. Je me rappelle d'une discussion où il était question des conditions requises pour s'inscrire dans une école lacanienne de psychanalyse avec Jean Alouche. Il avait dit quelque chose comme « le minimum pour entrer à l'ELP, c'est reconnaître RSI ». Ah non, c'est une discussion à laquelle j'ai participé. Non, c'est pas une blague. Non, il n'y a pas de référence de texte. C'est une parole reçue. Je ne sais pas, tu te souviens ou pas? Voilà. Merci, j'ai un témoin. J'ai mieux qu'un texte, c'est Simone Guénère. Voilà. Alors non, je plaisante, mais pour moi, c'est absolument important, parce que je souscris à cette définition minimale, et c'est en cela que je peux me dire lacanien, c'est-à-dire se loger sous le ternaire RSI, en accepter le paradigme. Quant au reste, je dirais, ça se discute, c'est à soumettre à l'examen critique. Le paradigme lui-même n'échappe bien sûr pas à l'examen critique, il n'a rien d'évident, cependant, il est comme une sorte de dôme conceptuel sous lequel nous nous trouvons, pour ma part, c'est ce que je veux. Ça me plaît à penser. Il convient d'en examiner les significations, les paradoxes, peut-être même les impasses, mais on n'échappe pas à son emprise, comme une sorte de cadre a priori sous lequel les phénomènes nous parviennent. C'est une façon de loger le ternaire RSI en place de S1, écrit Jean Alouche. Être lacanien serait s'approprier ainsi le point d'extériorité avec lequel Lacan a lu Freud. Mais il y a autre chose que l'adoption de ce S1, nous dit l'auteur, puisqu'il qualifie, comme ça a déjà été dit, le recueil des bons mots qu'il a publié comme la meilleure manifestation de sa position d'élève vis-à-vis de Lacan. S'y illustre le caractère spirituel de la psychanalyse et de sa transmission. Une manière où la pointe de la parole, faite de surprise et de saisissement, indique combien l'énonciation ne peut disparaître derrière l'énoncé. C'était justement un des traits de la parole enseignant, selon Audi, que vous avez cité, un ironiste chez qui l'énonciation prime sur l'énoncé. Audi situe Lacan dans la lignée du Kierkegaard ironiste, celui qui refuse la communication directe, où l'énoncé prend le pas sur l'énonciation. Il pratique le discours de l'ironiste, alors qu'il serait une sorte de métadiscours par rapport aux quatre autres, un passage d'un discours à un autre.
Permet.
On pense aussi au Lacan sophiste de Barbara Cassin, peut-être qu'on va relire aussi avec ça. Mais alors, pour échapper aux guillemets de lacanien, les guillemets de réprobation, que pourrait être notre point d'extériorité vis-à-vis de l'enseignement de Lacan? Quel point à partir duquel le lire? Alors là, bon, c'est une tentative. Pourrait-il être pulsionnel, ce point, et renvoyer au lien érotique entre maître et élève? Là, je repars sur l'apologue et l'érotique de l'élève hérisson. Alors, vous avez, je pense, tous entendu, je redis peut-être une fois, donc, l'élève hérisson, donc ça part de Lacan qui aimait attraper des hérissons, apparemment, des hérissons, pardon, à la campagne, et les ramener chez lui, dans sa poche, dans son mouchoir. Et donc, Alouche rappelle qu'il y a trois temps, il est saisi par le maître, mis dans sa poche, le maître le met dans sa poche, dans le mouchoir, et l'élève hérisson pisse dans le mouchoir, puis il est mis sur la pelouse, et là, il se met en boule, de manière à se défendre. Alors, dans son apologue pour traiter de l'érotique du lien maître-élève et de la manière dont il traverse ou concerne intention et extension de la psychanalyse, Alouche n'y va pas par quatre chemins. En l'occurrence, quatre chemins pulsionnels, quatre objets. Il en sélectionne un. Alors là, vous allez entendre l'audace de Jean Alouche. Lire Lacan serait-ce lui pisser dessus? J'ai jamais lu ça ailleurs. Apparemment, la réponse est positive. Il précise « Envisager d'un point de vue des pulsions, qu'est-ce donc que l'attitude critique ?» Réponse « Pisser sur des traces d'excréments. » Pisser correspondrait au temps pour comprendre. Alouche ose y aller. Il convient pour l'élève de passer l'enseignement du maître à la pisse, l'enseignement renvoyant lui-même à des traces d'excréments. Alors, excusez-moi, mais nous sommes dispensés du glamour quand on aborde les choses en psychanalyse. Depuis que Freud, dans des lettres à Fritz, a qualifié son travail de recherche de drécologie, de merdologie. Par ailleurs, cette érotique est solidaire du fait que c'est bien l'anus, le sexe du maître, comme justement le livre dont je parlais tout à l'heure en fait la démonstration. C'est également synthone avec le fait que le savoir de l'inconscient est emmerdant, selon le mot de Lacan. D'ailleurs, Lacan dit lui-même que son écriture vise, d'une certaine façon, à enquiquiner le lecteur, autrement dit à l'emmerder, ce qui l'oblige à y mettre du sien. Se référant à la volvation de l'hérisson, c'est un mot que j'ai appris dans le livre, donc c'est le fait qu'il se roule en boule, Alouche écrit que c'est bien ce qui lui arrive quand il étudie Lacan, et ça, j'avoue que ça m'a fait du bien de lire ça, que même un lecteur émérite, aussi érudit, aussi... Je cite, « Autant le préciser, deux points. Le lire, donc lire Lacan, s'avère souvent pénible, quand bien même cela réserve quelques instants de bonheur, quelques trouvailles, en mettant du sien ce qu'il attendait. » Y mettre du sien, précise-t-il, c'est bien ce qu'on attend d'un partenaire sexuel. C'est aussi une manière de se mettre du sien, d'entretenir le rapport sexuel dans le lien maître-élève. Ce rapport au maître est celui de l'élève hérisson saisi par le maître et qui pisse dans sa poche avant de se mettre en boule. L'élève se hérisse, c'est l'hérisson, l'hérissillon. On entend aussi dans ce hérissillon l'hérésie. Il me semble avoir lu, mais alors je ne sais plus sous la plume de qui, que le savoir analytique ne pouvait être qu'hérétique. Sur l'analité du lien entre maître et élève, avec la dose d'agressivité qu'elle implique, on remarquera combien Lacan a souvent piqué Freud dans son séminaire, et Simone Wiener le rappelait ce matin en lisant, vous savez, toutes les gentillesses que Lacan adressait à Freud. Cela me rappelle également une citation, alors je crois que c'est la tradition zen, qui disait que l'élève doit mordiller les chevilles du maître comme un jeune chiot. J'aime bien cette image. Dans Transmettre, Alouche entend problématiser ce que peut être un enseignement de psychanalyse. soit, je cite, l'un des deux versants selon lesquels se transmettrait la psychanalyse, et non pas seulement, et de fait, les analyses didactiques. Il utilise le terme analyse didactique à plusieurs reprises, sans s'y arrêter, comme si c'était un autre problème, et que là, il était sur la question de l'enseignement. Les enseignements, séminaires, articles, etc., constituent une voie relevant bien souvent du discours du maître, écrit-il. Un savoir y est mis aux commandes, définition du discours universitaire où le savoir est mis en place d'ailleurs. De cette voie de transmission, Alouchdi qu'on s'y instaure en maître, et transmettre s'écrit alors transmettre. C'est de là que donc, le titre. C'est à ça que le titre fait référence. Un autre auteur cité dans le livre, Macheret, rapproche discours universitaire et discours du maître comme relevant dans les deux cas d'un discours d'autorité. Je cite, que cette autorité soit celle personnalisée d'un maître qui abuse de son pouvoir ou celle d'un savoir qui se donne comme appartenant à personne en particulier, l'université bien sûr. Au contraire, dans l'analyse en intention, dans la cure, le rapport au savoir est différent, singulier, car c'est un savoir recueilli, produit et non dominant. Dans la psychanalyse en intention, je reprends aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, l'analyste se met à l'école d'un analysant. Joli, je trouve aussi cette formule. L'analyste se met à l'école d'un analysant. Drôle de maître. Qui est alors le maître? Où est l'autorité? Freud a bien sûr inauguré ce mouvement. Cependant, on retrouve dans le détail de sa pratique, je pense au journal de l'Homme Rat, par exemple, le souci d'expliquer à l'analysant. C'est un terme qui revient tout le temps. Erklären. Il livre de manière didactique un savoir à l'analysant sur lui-même. Il lui explique. Mais là, vous pensez ça parce que, etc. C'est assez conforme à l'idée développée également par Freud que l'analyste est guidé par son amour de la vérité, entendu comme reconnaissance de la réalité, dans Analyse avec fin, Analyse sans fin. On sait qu'avec Lacan, vérité et réalité vont connaître des développements moins univoques. Or, de même que l'empathie peut consoler, amener un certain réconfort, mais ne rien résoudre, la communication d'un savoir qui relèverait du commentaire de la parole de l'analysant, je cite Alouche, cette communication donc d'un savoir qui relèverait du commentaire de la parole de l'analysant, donnera à qui le dit, et peut-être aussi à qui le reçoit, l'impression, l'illusion d'un franchissement. Mais l'analyse vise un franchissement plus conséquent et moins illusoire, dont l'auteur nous parle dans les dernières pages de son livre. Il s'agirait d'obtenir, je cite, « la destitution dans les esprits et les chairs de la prégnance du sexe envisagée comme rapport ». Alors le maître analyste, je termine par ça. J'avais utilisé dans l'association, il y a quelques années, la figure du maître analyste, pour proposer un principe d'exogamie. Ça n'a pas été retenu. à raison, d'ailleurs. Alouche répond d'une certaine manière théorique à cette crainte. Il écrit, ce qui m'a surpris de tomber sur cette phrase, « Une figure de l'analyste-maître n'est peut-être pas si tératologique. » C'est que les deux voies de transmission, puisque là, donc, c'est vraiment cette question de l'enseignement et de la cure, disons, c'est que les deux voies de transmission peuvent, selon lui, converger dans leur rapport au silence, au se taire, à l'ignorance. Mais, c'est là un peu ma réserve, s'il est alors convaincant en ce qui concerne la psychanalyse en intention, dans les pages consacrées au silence de l'analyste, qui ont été beaucoup citées, hein, les dernières pages, la place qu'il conviendrait d'accorder au silence et à l'ignorance dans les enseignements est plus opaque, je trouve, moins évident, moins développée. Finalement, enseignement en extension et transmission en intention se rejoignent dans le dernier paragraphe du livre. Leur horizon commun est l'inexistence du rapport sexuel, celui-ci ne laissant pas inchanger le savoir, le versant au compte de la docte ignorance. Cette inexistence est désignée ailleurs dans le livre comme le trou du savoir qu'il faudrait enseigner. Mais, aurais-je envie d'objecter de manière critique, fidèle en cela à l'érotique du maître et de l'élève dont je parlais tout à l'heure, n'y a-t-il pas un risque, alors, que l'inexistence du rapport sexuel devienne un essaim, un signifiant maître mis en place d'agent de nos discours, de notre discours, pardon, et nous fasse à nouveau glisser dans celui de l'universitaire et du maître? Glisser dans celui du maître, vous entendrez, crainte ou espoir, et je terminerai sur l'érotique de cet équivoque.
Le débat a déjà commencé avec la salle, maintenant on va le poursuivre.
Les intervenants, venez alors.
Par ce signifiant de brouille, de brouillardise, de brouillard. C'est d'autant que dans une des dernières rencontres avec Jean, par des chemins un peu latéraux, je lui avais demandé s'il avait prévu des choses par rapport à son travail, ce qui deviendrait, et il m'a répondu, il faut qu'il se débrouille. Ils n'auront qu'à se débrouiller. Débrouillez-vous.
C'est un nom de la liberté.
Absolument. Un autre point, peut-être, auquel j'ai été sensible, c'était le moment de passage entre Jean Allouche, analyste, et Jean Allouche, ami. Et je me souviens qu'il avait dit que c'était une question de la chute du transfert, et comment pouvoir être après, avec son analyste, dans des relations, finalement, d'amitié ou habituelles. C'est pas si facile. Voilà, c'est les deux points qui me sont venus par rapport à ça.
Les intervenants.
C'est vrai que c'est difficile, oui. Mais peut-être, moi je l'aborderai à partir presque d'une simple phrase qui fait beaucoup d'écho pour moi. Se retrouver frère de et par le langage. De et du langage. Pas frère de discours.
Il me semble qu'un ami ne peut pas imposer des épreuves du style que un maître spirituel va rendre possible, parce que c'est rude quand même, très rude. Un ami est accueillant, voilà, il a préservé une amitié. Le maître spirituel tacle, l'élève prend la fuite. Il n'y a pas d'obligation. Le maître spirituel ne tacle pas deux fois. Une fois.
Est-ce que ce n'est pas la question de la disparité des positions? Parce que Jean Allouche avait consacré une après-midi, enfin, il avait animé une après-midi complète autour du livre de Catherine Millot, Ma vie avec Lacan. Et je suis restée, moi, sur une question que je lui ai posée, et il a fait comme il faisait à certains moments, c'est comme faisait Lacan aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? La question que je posais, c'était la question qu'avance Catherine Millot dans son livre, hein, j'ai pas... Du fait d'être à la fois, c'est pour ça que je parle de la disparité des positions, à la fois une analysante et à la fois sa maîtresse. Et j'avais essayé d'avancer la question à Louche en lui disant, est-ce que vous pensez que Lacan, en mettant en avant la place des maîtresses, est-ce qu'il essayait de montrer que le rapport sexuel peut être tellement neutre qu'en fait il n'existe pas? Et en disant, qu'est-ce que vous pensez de cette double position, donc de Catherine Millot, à la fois comme maîtresse et comme analysante. Et donc, il a éliminé la question, mais c'était, de ma part, la question de la disparité des positions, parce que j'y ai pas mal réfléchi après, en me disant que quand on est avec un amant ou avec une maîtresse, parce que c'est dans les deux sens, on discute et on, normalement, on est dans une position où chacun va se laisser aller, mais parler aussi de sa vie, de ce qu'il pense, etc. Or, je me suis demandé comment, du côté de l'analyste, c'était possible d'arriver à avoir ces deux positions sans que celui qui est, celle qui est l'analysante entende, oublie la position de ce qui est, de ce qu'elle était comme maîtresse. C'est-à-dire, il y avait, je suis très sensible, et en plus Alouche l'avait marqué, il avait dit, alors pas lors de cette journée-là, mais il avait dit, c'est très important cette disparité des positions. Donc il en avait profondément conscience. Mais lui, il axait sa journée sur le livre de Catherine Millot, elle était avancée plus, me semble-t-il, avec le recul, sur la manière dont Lacan, Jacques Lacan, amenait la question de l'amour. C'était la question de ce qui transparaissait dans le livre de Catherine Millot, de la position de Lacan par rapport à l'amour et au fait d'être amoureux. Et c'était pas du tout la question que je me posais, mais qui a été posée, par contre, lors d'une journée à Encore, où vous avez reçu Catherine Millot, et où vous avez posé aussi la question de l'argent, qui n'avait pas du tout été posée lors de la journée avec Jean Alouche. Et en même temps, je me suis dit, avec le recul des deux réunions, que c'était une question complètement impossible, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait qu'aborder la question de cette double position de Catherine Millot, j'ai relu le livre de manière très serrée après, et tout est dans les deux premières pages et les deux dernières pages. Chaque mot est choisi dans les deux dernières pages de manière très très serrée et très précise, où on voit comment ça s'organise, parce que c'est aussi la question de la fin de l'analyse. Est-ce qu'on arrête la fin de l'analyse parce qu'on arrête la fin de la relation amoureuse? Et où est-ce qu'on arrête? Laquelle on arrête, en fait? Et j'ai eu l'impression de me heurter à quelque chose de l'ordre de l'impossible. Voilà, je m'excuse pour... Voilà. Mais parce que j'étais restée, par rapport à Alouche, sur cette question qu'il a entendue. Ça, j'ai bien vu qu'il l'avait entendue. Mais en même temps, où je pense qu'il n'a pas répondu parce que ça relevait de quelque chose de difficilement mettre en mots, je ne sais pas comment le dire.
Pour nos intervenants, je vais défendre, mais le féminin de maître, ce n'est pas maîtresse.
C'est vrai.
Maintenant, si...
Un diamant, un paramètre.
Voilà.
Alors que c'est dans la langue.
On peut dire amant. On
dit amant. Diamant.
On dit.
C'est même ancien.
Tu dis que le maître t'a la clé.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est ta clé?
La clé
de cela.
C'est
au fond.
C'est-à-dire que si c'est une école, c'est une microstructure. Il arrive que le maître ait des émissaires qui viennent s'adresser à, voilà, aux Français, qui viennent s'adresser à l'élève. Et quand on joue la partie dans ce qui, notamment dans la revue Speed, s'est appelé la prépasse, c'est-à-dire la passe continuée par d'autres moyens, et qu'on pousse les choses assez loin, de telle sorte de continuer à faire des grands tours, il se trouve que, en pays lointain, on est très bien reçu, mais remarquablement feinté aussi. C'est ça que j'appelle un tacle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une ouverture et une chute qui fait que le non-rapport sexuel est confirmé sans un mot. Sans un mot.
Francis, et les intervenants ont aussi le droit d'échanger entre eux. Francis Sauvetagne.
Ouais, je voudrais savoir pourquoi vous étiez deux à dire ça. Vous considérez la passe comme un délire.
Alors moi, je ne l'ai pas d'abord présenté comme ça. Mais non, le mot délire a été dit. Alors moi, j'ai accentué en disant gros délire. Oui. Enfin, Lacan disait aussi, l'analyste, ce serait bien qu'il délire un peu plus. Parce que c'était une histoire folle.
Oui, ça, je suis d'accord.
Mais... Ah oui, mais alors on continue quand même. On peut s'arrêter à tout moment. C'est pourquoi je parle de dispositif côté école et de procédure côté candidat. Parce que à tout moment, le candidat peut s'arrêter dès la première demande, dès la première exigence de l'école, en disant « je n'en suis pas votre affaire ». Et les choses s'arrêtent là. Bon, après, on peut continuer et être de plus en plus surpris et de continuer quand même. Bon. Voilà, je veux...
Oui,
oui, des choses délirantes sont dites, c'est-à-dire des choses qui ne tiennent en rien dans la réalité. Credo, cuiat absurdum est.
Non, c'est pas la passe qui est un délire, non, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la passe, d'une certaine manière, d'un point de vue extérieur, hein, au dispositif, me fait délirer dans un sens qui m'intéresse.
Oui, c'est autre chose, ça.
Voilà. C'est ça. Je voudrais juste revenir sur un point que Vincent a appuyé, je trouve, de façon très... Enfin, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup intéressée dans votre exposé, sur l'audace de Jean Alouche, sur la question du moment où l'élève, dans la poche du maître, pisse. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Donc, le petit hérisson dans la poche de Lacan, puisqu'il est encore comme ça. Voilà. Et... je ne suis pas dans l'école encore, enfin, je ne suis pas en plein jeu dans l'école encore, ou je ne suis pas dans l'école encore.
C'est une association.
Pardon, c'est une association, déjà, voilà. Je voudrais savoir s'il y a des pisseuses et des pisseurs.
Oui, hein? Oui, oui,
juste à l'école. Non, je ne sais pas, ou à l'école, enfin, ou à l'école...
L'épiscopie.
Hein?
L'épiscopie.
T'as pas bien ça.
Faudrait peut-être rappeler.
C'est-à-dire s'il y a des choupisseurs.
Faudrait peut-être rappeler là comment le renard chasse les hérissons.
Ah oui.
Parce que pour les manger, il pisse dessus.
Et comme, le renard aussi.
Et comme le renard pisse sur le hérisson, le hérisson mouillé s'ouvre et le renard peut le bouffer. Ça, c'est la réalité.
Il y a quelques renards dans les écoles. De la méfiance d'un certain nombre.
Alors le geste de mettre un renard, c'est de dire c'est le hérisson qui pisse, alors qu'en fait depuis le début c'est lui qui a pissé.
Le renard.
C'est mettre un renard en fait, c'est qui donne réputation après de pisseur au hérisson. C'est pas lui qui a commencé.
Alors le renard il pisse pour bouffer l'autre.
C'est ça.
Là, l'élève hérisson, il pisse pour clarifier, nettoyer l'enseignement qu'il reçoit.
Ça, quand le renard a bouffé le hérisson, c'est clarifié.
Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pisser de plein de manières.
Et pour plein de raisons.
Non, c'est pas équivalent.
Voilà.
Non, mais on comprend aussi les choses dans ce qui se raconte.
Pour marquer son tête.
Elle dit pisser de terreur, c'est aussi oui,
pisser de terreur. Mais je voudrais raconter une petit témoignage et puis après faire une annonce. Il y a eu la mort de Jean Alouche, il y a eu cette merveilleuse cérémonie qui était comme un cercle magique où on était entre je sais pas quoi, c'était vraiment un moment merveilleux. Et après, il y a eu les premières assises à l'école lacanienne dont je suis membre. Et comment ça allait se passer, ces premières assises sans Jean Alouche? Et alors, avec Guy Casadamon, on était derrière la table des livres et on faisait les Ernesto, certainement, on faisait les andouilles. et on riait. Je sais pas, on était joyeux, on se provoquait, voilà, on faisait un peu de la pagaille, on faisait du chahut, et un petit peu autour du livre L'épopée nosière, et je le provoque et je lui dis, mais tu veux qu'on fasse un colloque? Ça s'arrête, tout ça, la nuit, je construis le colloque, et le lendemain, je lui en parle, et c'était plié. C'est une façon aussi en acte de transmission, c'est-à-dire que ce que je voulais peut-être dire, c'est que Jean Alouche était un maître qui nous laissait terriblement libres. Et c'est cette liberté-là qui, à ce moment-là, a fait que, allez, on y va, on fait une journée sur une grande monographie clinique qui vient s'ajouter aux autres. Et donc, voilà ce que je voulais témoigner. Et cette journée aura lieu donc le 25 mai à l'Université de Paris 8. Voilà, j'espère que vous y viendrez. Parce que...
Sur
l'épopée nosière.
Oui, donc, c'est sur ça, bien sûr. Oui,
voilà, sur la dernière grande monographie clinique qui a été publiée par les éditions Eppel, qui a été signalée par Isabelle au début. Et donc, voilà, on est toute une petite troupe à travailler sur ça. C'est une façon pour nous de rendre hommage à Jean Alouche.
Je vais solliciter deux de ses enfants, j'espère qu'ils viendront.
Ah oui.
Oui.
Les enfants de
circuler en PDF sur les réseaux. Si parmi d'entre vous, vous avez des mailings, des choses comme ça, ce serait vraiment super si on pouvait la faire circuler sur vos réseaux pour qu'on arrive à fabriquer un public, parce que c'est très difficile de fabriquer un public, voilà. Donc venez me donner votre adresse et après je vous envoie la plaquette en PDF. Voilà, c'est tout. Merci.
Oui, on a reçu l'annonce, mais pas la plaquette, c'est ça? Ah oui, moi, j'ai reçu l'annonce.
Par quel...
Par le LP.
Si la plaquette, elle est toute à la fin.
Oui, donc je l'ai vue, d'accord.
Oui,
merci.
Voilà. N'hésitez pas à la faire circuler.
D'accord. Ouais.
Je voudrais revenir sur une question. On a encore 5 minutes, c'est ça?
Oui.
Être ou ne pas être lacanien, pour le redire comme ça, parce que ça a beaucoup circulé. Pour Lacan, il me semble que se dire freudien ne lui posait aucun problème. Même si, comme ça a été relevé, il ne manquait pas de tacler, pour reprendre cette expression, Freud à tout moment, hein, y compris en parlant de sa bonne femme selon Jung, etc. etc. Bon, oui. Quel est véritablement le problème, là, de se dire ou pas lacanien?
Il n'y a pas à se dire, il suffit de le lire. Lecteur de Lacan.
Je vais très vite. Pourquoi on ne dit pas non au maître? C'est aussi une question là qui me gêne beaucoup. Allez-y, pardon.
En fait, moi, je suis presque étonnée par la question. Alors, c'est peut-être une question de génération, mais moi, je n'ai pas de problème à ne pas me dire non lacanienne ou à ne pas me dire lacanienne. Et c'est pas un souci, en fait. C'est pas un problème.
Moi, ça ne pose aucun problème.
Ben, à moi non plus. Bon, mais
du coup, c'est pas... Je trouve que c'est pas tellement le problème de le dire, c'est la façon dont on l'est, quoi. Et c'est peut-être ça l'héritage qu'on peut avoir de Jean Alouche, c'est sa façon de l'avoir été, c'est-à-dire de pas cesser de le lire, mais de pouvoir alpaguer certaines lectures, de pouvoir pisser dessus, se rebiffer, avoir cette audace de ne pas le prendre de manière conformiste, hein. Pas une église, pas de manière orthodoxe, pas de manière religieuse. On n'a pas employé ces termes, mais je pense que c'est ça. Et c'est pas, voilà. Et comme il y a quand même, on parlait beaucoup des post-freudiens, on peut aussi parler des post-lacaniens, et qu'il y a une manière extrêmement conformiste de se positionner. Et c'est ça dont on a voulu parler, je crois un peu tous, de notre manière. Enfin,
moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose là-dessus, c'est que Il y a une manière de ne pas être lacanien qui est d'être anti-lacanien. Et il y a une manière d'être lacanien qui est de faire partie d'une église.
Voilà.
Pour quelqu'un de ma génération, mais sans doute pas seulement, hein, moi je parle parce que ça me semble plus courant, mais c'est sans doute pas la seule possibilité, on peut aussi ne pas être lacanien parce que Lacan fait partie de la culture analytique, ni plus ni moins, c'est-à-dire sans engagement transférentiel, sans, voilà, c'est vraiment ça en fait, lire Lacan sans aucun engagement transférentiel, ça pourrait être une position qui serait la mienne, et pas seulement la mienne, une position. Et là, je crois qu'on peut dire qu'on n'est pas lacanien, sans pour autant être anti-lacanien. C'est-à-dire qu'on on le lit parce qu'on espère trouver des choses. Parfois, on en trouve. Parfois, on n'en trouve pas. C'est pas ce que faisait Alouche. Je pense qu'Alouche était pour le coup un lacanien, au sens où il était pris dans ce transfert à Lacan. Il a travaillé à partir de Lacan, avec Lacan. Et moi, je trouve ça à la fois merveilleux et en même temps, j'en ai une lecture très décalée parce que moi, je lis Lacan comme un mort, je lis Alouche comme un vivant, et ce que je cherche en lisant Alouche, c'est pas son commentaire de Lacan, en fait. Vous voyez, ça fait plusieurs déplacements. Alouche lit Lacan pour trouver quelque chose chez Lacan qu'il essaye d'élaborer, mais qui devient sa parole à lui, c'est plus un commentaire de Lacan, c'est autre chose, quoi. Et moi, quand je lis Alouche, j'aurais presque tendance, alors je sais pas ce qu'il penserait s'il était là, mais j'ai presque tendance à écarter son commentaire de Lacan, ou à le lire pour information chemin faisant, afin d'arriver à ce qu'il a à dire, lui, Alouche, et notamment de la liberté. Et sa parole, j'ai l'impression qu'il a eu besoin de traverser le texte lacanien pour dire quelque chose qui, finalement, se situe relativement à côté, pour ne pas dire dans un lieu assez, assez autre, quoi, qui est celui qu'à mon tour, je vais chercher, etc.
Ouais, c'est en ça qu'il voilà. Hérisson.
Il y a quelque chose qui
on a quand même relevé beaucoup la question du point d'extérieur.
Mais il y a deux personnes
oui, mais il y a aussi qu'il était en analyse avec Lacan. Et donc,
oui, oui,
c'est le transfert. Oui.
Il y a deux personnes là.
Moi, je trouverais plus intéressant de parler de champ freudien. Alouche, dans son livre Freud, Virgule et puis Lacan, il a très bien dégagé ce qu'il a appelé le champ freudien. Et notamment, justement, grâce à ce point d'extériorité que Lacan avait, je trouverais ça plus intéressant de parler de champ lacanien plutôt que de lacanien, et d'essayer de voir, et ça rejoint cette idée de point d'extériorité qu'Alouche pourrait avoir pour lire Lacan, et donc dont il a été un petit peu question, et... est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se dégager de ce qu'on pourrait appeler un champ lacanien, plutôt que de parler de être bien, être lacanien, etc., qui me semble assez stérile. Et de ce point de vue, de point d'extériorité, j'ai un souvenir d'avoir entendu Alouche dire, c'est parce que je suis restée fidèle à la pensée de Kierkegaard que j'ai pu lire Lacan comme ça. Et vous avez dit, vous êtes le seul, je crois, à dire que garde ironie.
Oui, c'est
et ce point d'extériorité, peut-être qu'il est aussi dans une lecture qu'il a eue.
Mais dans le paragraphe que Jean Alouche écrit sur Paul Audy lisant l'ironie de Kierkegaard, c'est vraiment là. Enfin, s'il fallait relever, je ne sais pas s'il faut relever, mais en tout cas, c'est un des points d'extériorité que je trouve intéressant aussi.
Il l'a dit à un moment donné explicitement, je ne sais plus.
Oui,
dans ses interventions.
Daniel Arnaud.
Oui, moi je voulais juste revenir, rebondir là sur ce que vous dites de génération par rapport à ce terme lacanien. C'est-à-dire qu'au moment où s'est créée l'école lacanienne, c'était extrêmement important d'avoir ce lacanienne dans le nom de l'école, et c'était la première. Et la seule des organisations qui allaient exister après l'école freudienne, après la dissolution de l'école freudienne, c'était le premier on va dire groupe, mais donc école qui prenait à bras le corps cet adjectif de lacanien. Et c'était extrêmement important. Et en effet, en vous entendant maintenant, et avec tout le chemin parcouru par Jean Alouche, voilà, ça a pris un autre sens.
Je
pense que ça un point qui m'interroge, moi, c'est une spécificité de la psychanalyse, me semble-t-il, qui est, pas tout, qui est propre à ce champ de savoir, plutôt que, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est précisément la personnalisation dans la psychanalyse. Et le nom des écoles est assez édifiant à ce point-là. Et je pense que, enfin, mettons, pas pour les générations, mais on entend bien quelque chose de cet ordre qui est quand même très rafraîchissant, je trouve, quand on entend une lecture à laquelle on n'est quand même pas habitué. Je trouve que c'est assez étonnant, mettons que ce soit les générations. Mais moi, je me demande comme ça pourquoi on tient à ce point-là qu'Alouche soit lacanien, puisque d'ailleurs il dit le contraire dans le texte. Il y a quelque chose qui. On se rassure à dire qu'Alouche était lacanien. Enfin, quand même, Alouche, il permet de prendre des distances. De critiquer Lacan, ce qui est quand même pas simple. Moi, c'est quand même le seul qui me permet de lire Lacan en critique.
Vous voyez, vous dites prendre une distance avec Lacan. Mais on n'a pas forcément besoin de prendre une distance avec Lacan quand on est déjà loin. Donc pour moi, le discours d'Alouche, il ne permet pas de prendre une distance avec Lacan. Il me permet parfois de lire Lacan. Parfois non, d'ailleurs. Parfois, j'ai juste pas envie de lire Lacan, j'ai envie de lire Alouche. Et puis parfois, je me dis, tiens, non, quand même, allons voir ce qu'il dit de Lacan. Et puis du coup, je me mets à lire Lacan. Mais vous parlez de prise de distance. Les générations, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il s'agit juste de dire que dans la chronologie de l'histoire... Je n'ai jamais eu accès à une parole de Lacan qui soit une parole vivante, et il n'y a pas de transfert sur Lacan, du coup. Et du coup, ça configure quand même autrement le rapport à cette chose-là.
Effectivement, si on a besoin de prendre sa distance, une prise de distance à l'égard de Lacan pour quelqu'un qui n'a pas entendu sa parole, moi je n'ai jamais croisé Lacan, justement, c'est énigmatique. Oui, on peut être déjà loin, c'est pas donné. Quand on a fait son analyse, pas donné. Et je trouve qu'on entend quelque chose de ça depuis dans cet après-midi. Je trouve qu'il y a quelque chose pour voir Alouche. On colle Alouche à Lacan et le décollage est difficile, je trouve. Je suis pas sûr qu'on y tienne.
Et je trouve intéressant. À Sainte-Anne, il y avait le. Il y avait le séminaire de Jean Alouche à Sainte-Anne. Moi, je me souviens, c'était la fin des années 90. Je me souviens, il nous a dit « Tout ce que je pense, tout ce que je dis est en lien avec Lacan. » Et moi, je lui ai dit « Mais non, quand vous parlez, on n'entend pas Lacan, on entend votre parole. » Mais il ne voulait pas, il n'était pas d'accord avec ça. C'était un certain moment, oui, et après il a bougé.
Dans quelques années, il a changé.
Oui. Très récemment.
C'est récemment qu'il a su lui-même.
Oui.
C'était que
comment
qu'il avait quelque chose en lui-même à apporter, tout en étant toujours assez audacieux, même avant. Il était pendant longtemps comme sous la, voilà, sous contrôle de Lacan. Oui. Bien qu'il n'était pas comme ça, mais qu'il avait, je pense que c'était lié au transfert. C'est aussi le transfert, lié à la réalité du transfert.
Vous avez quelque chose, mais... Arto, ça se passe autrement, il n'y a pas Lacan dans Arto. Même avant.
À partir des années fin 90, quand il prononce comme ça, la psychanalyse sera freudienne ou ne sera plus, il introduit vraiment il introduit d'autres choses dans la psychanalyse. Et là vraiment, il largue Lacan, il largue un certain nombre de choses et il prend, il part ça aussi, mais peu importe. Mais il trouve aussi un chemin à lire Foucault, quoi. Et il introduit vraiment autre chose. Enfin, moi, je pense que...
Il se positionne autrement.
Il se positionne. Et il ouvre, on parlait de champ, pour le coup, il ouvre un autre champ. En introduisant, en créant avec Daniel et d'autres les grands classiques de l'érotologie moderne, il introduit dans le champ freudo-lacanien, je ne sais pas comment dire.
C'était même avant.
Avant. Ça date de 25 ans, à peu près, 20 ans.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire, c'était dans les années 95, quoi, à peu près, Daniel, les grands classiques de l'érotologie. Voilà, il prononce la phrase en 98.
Avant 2000.
2020.
Alors voilà, oui, que mais les rotologies de passage, c'est avant.
Oui, les rotologies de passage, c'est avant. Donc, mais on peut dire, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, les grands classiques de l'érotologie, c'est presque l'émanation de ce qu'il peut dire dans les années 90 sur Foucault. Et là, d'introduire les gay lesbian studies, la queer théorie, les gender theory, qui est quand même, aujourd'hui, une façon de pisser sur l'ensemble du chanfre de lacanien, qui est encore extrêmement compliqué. Alors, efficace, mais surtout très compliqué, quoi, pour le chanfre de lacanien. C'est très compliqué. Il a largué les hérissons, là. Dans le chanfre de Lacanien, qui est quand même très, qui reste encore
peu chéri,
très très
peu chéri,
ouais. Très peu chéri, et de façon assez violente d'ailleurs. Ah, ils sont beaucoup plus hérissés que les hérissons. Et pour moi, ça c'est un tournant dans le je sais pas quoi, enfin,
l'œuvre. Je trouve tout de même que être lacanien, ne pas être lacanien, ça se tire à conséquence dans une pratique canoniste. Je pense que c'est pas la même chose d'avoir été en analyse avec quelqu'un qui a pratiqué une analyse lacanienne. Je disais que ça tire à conséquence d'être lacanien ou pas en tant qu'analyste, parce que l'analyse, c'est d'avoir une praxis, et les analyses ne sont pas les mêmes en fonction de la position d'une direction de cure ou bien d'une érotologie analysant analyste. Voilà. C'est pas, ça tire à conséquence.
On va devoir conclure parce que les gens partent. Alors, j'en profite. Moi, j'ai quitté à ce moment-là de l'LP, parce que je trouvais le virage un peu effrayant quand ils ont tourné du côté de l'érotologie. Et je disais, j'ai eu tort, mais j'ai eu peur aussi à ce moment-là. Mais malgré ce virage, je rappelle quand même avec ma voisine qu'il a écrit L'amour Lacan aussi, à la fin. Enfin, au sens, pas à la fin, mais... Donc, il y a les deux qui se tiennent. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus chercher à faire une dichotomie trop forte. Je pense que les deux se tiennent. Voilà pour conclure, et je vous dis à la prochaine.